C'est Dan Gagnon ici pour Podcast Tout Seul, le 15e numéro, l'édition du mercredi 8 avril. Je suis hyper enthousiaste. Comme je vous disais hier, j'adore parler, même quand j'ai rien à dire. Et aujourd'hui, j'ai énormément de choses à dire. Ma journée s'est passée en deux temps. En fait, à trois temps, pour être honnête. Depuis quelques jours, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis fatigué. Et je ne comprends pas parce que je ne me suis jamais couché aussi tôt depuis que j'ai 9 ans, je crois. Je vais littéralement me mettre au lit entre 20h30 et 21h. J'essaie de lire. Au bout de 15 minutes, je me rends compte que je lis la même phrase 11 fois et je mets le Kindle de côté. Et je me réveille le matin, la tête dans le derrière. J'essaie de faire un peu de sport pour me réveiller. C'est tous les trucs que tu n'as pas envie de faire, mais tu sais qu'ils sont bons pour toi. Genre, je vais redormir 15 minutes. Je fais non, je vais aller faire un petit peu de vélo stationnaire 15 minutes. Et malgré tout, je fais mes journées comme si l'air était de la mélasse. Et donc voilà, heureusement, j'adore ce que je fais. Donc, même si tu es fatigué, quand tu fais la chose que tu préfères faire au monde, il n'y a pas de souffrance, je ne souffre pas. Je crois que je suis juste... en fait, j'ai ce réflexe de gars qui a bu de l'alcool trop, très souvent. Ou quand il se réveille un lendemain où il n'a pas bu la veille, il est comme fâché contre la vie quand il n'est pas en forme. Genre comme si la vie te devait que tu te réveilles à chaque matin super en forme. Et j'essaie de trouver pourquoi. Et j'ai pas la réponse encore pour l'instant. Donc désolé si je sonne un peu différemment. Mais voilà, c'est le... J'ai dit que j'allais toujours tout partager dans les limites du raisonnable. Et donc voilà. Donc ma journée a commencé par moi qui fais du sport en me disant « Mais allez, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas en forme? » Et après ça, c'est vraiment divisé en deux temps. Dans le podcast hier, je vous parlais de cette histoire de l'auditrice qui écoute le podcast et qui me demandait, et je crois par la bande vous demandait aussi, ce que vous pensiez des personnes, en général des femmes, qui décident de faire un enfant toute seule. Donc j'ai fait ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire je vous ai posé la question et j'ai déjà commencé à recevoir énormément de témoignages. Et en fait, ça, ce qui me touche là-dedans, c'est que ça va de pair avec un des livres que je suis en train d'écouter. Donc, c'est abonné à Audible, puis quand je fais mes trajets ou je fais des choses dans la maison, j'écoute des livres et je m'intéresse beaucoup au marketing. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Et le livre que je suis en train de lire, c'est un gars qui s'appelle Seth Godin. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de son livre The Purple Cow. C'était un énorme succès il y a une vingtaine d'années. Et là, son livre s'appelle This is Marketing. Et en fait, c'est quand même vraiment chiant. Le livre dure 7h30. Il parle d'une manière hyper drabe, sans intonation. Et clairement, il y a eu une révélation que le marketing, c'est pas d'essayer de forcer des produits dans la gorge des gens qui n'ont pas envie de le recevoir, mais de se mettre au service du marché, donc du market littéralement, en disant comment est-ce que je peux être utile aux autres, et c'est ça qui va amener à créer un bon produit. Et je dirais que c'est à peu près la seule chose pour l'instant que je retiens du livre, c'est n'essaie pas juste de imposer ce que toi t'as envie de dire et faire et vendre aux gens, mais écoute ce que les gens autour de toi ont envie ou ont besoin, et des petits groupes, pas nécessairement la masse, mais des petits groupes. Et depuis quelques jours, c'est un peu ce que je fais, genre j'ai l'impression des fois que j'aborde des thèmes qui vont concerner genre 4 personnes, mais déjà c'est beaucoup plus que 4 personnes, mais surtout, les choses dont on parle moins, mais quand quelqu'un amène le sujet sur le tapis, en fait ça fait ressortir plein de gens qui ont des connaissances que c'est leur réalité et qui sont ravis de partager ça. Et moi, je suis ravi de découvrir d'autres réalités. Surtout en période de confinement, tu es un peu enfermé dans ton propre monde et c'est facile d'oublier que ta réalité n'a rien à voir avec la réalité de la majorité de la planète. Et justement, donc quand j'ai parlé de faire un bébé toute seule, j'ai reçu déjà tout plein de témoignages. Et à chaque fois, quand je mets un post comme ça sur Facebook, tu as toujours des gens qui vont aller contacter une personne en particulier. Dans un autre livre, j'avais lu ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Si tu demandes qui aime les pommes, personne va dire « Ah, j'ai 11 amis qui aiment les pommes ». Mais quand tu as quelque chose de spécifique, quand un de tes amis est associé à une chose, genre tu as un ami qui adore les puzzles, les casse-têtes, Si tu vois un truc sur des puzzles, tu vas dire « Ah, je vais le taguer parce que c'est une façon d'améliorer votre relation, de toi lui donner quelque chose, de ressentir que tu lui as donné quelque chose de positif. » Et j'ai un exemple avec une fille que j'ai croisée dans ma vie professionnelle à un moment. Elle était stagiaire pour une entreprise qui produisait mes spectacles. Et en fait, cette personne déjà m'impressionne parce que sur toutes ses photos, elle sourit. Et sur toutes ses photos, c'est un vrai sourire. Moi, je préfère quelqu'un qui tire sur la gueule sur ses photos que quelqu'un qui se force à sourire, mais que tu sens la tristesse dans le regard. Et cette personne, elle est toujours souriante. Ça a toujours l'air sincère. Et c'est con, mais voir une photo de cette personne-là me rend heureux à chaque fois. Donc. Et je partage avec elle une chose en particulier. Je déteste les pianos dans les endroits publics. Je trouve que c'est une idée de merde. Je trouve ça horrible. Je trouve que ça n'apporte absolument rien de bon. Dans les aéroports, pour moi, c'est le pire. Il y a déjà du bruit partout. C'est déjà un peu abrutissant. Ne rajoute pas un objet à bruit. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller jouer du Chopin? Je m'en sac. Tout le monde dans les aéroports a de toute façon des écouteurs à leur portée. Si je veux avoir du Chopin, je vais aller écouter la version originale, ce que je ne ferai pas. Mais j'ai pas besoin de toi pour ça. Et je sais que j'ai probablement tort. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un jouer dans un aéroport, c'était vraiment avant un départ, c'était vraiment juste près de la porte où on allait partir. Et tu avais un regroupement de 10-12 personnes qui avaient l'air heureuses et qui l'ont applaudi à la fin. Et tu avais un con aigri, moi, qui genre grommelait tout seul. Et pendant tout un temps, je prenais beaucoup l'avion parce que je suis basé au Canada maintenant et je travaillais en Europe. Et donc, je prenais l'avion une fois ou deux par mois pendant un certain temps. Et oui, je sais que c'est pas génial sur le plan écologique, mais je crois que c'était un avion hybride. Non, pardon. C'est vraiment nul. En fait, c'est horrible. Je suis habitué de faire des podcasts à deux et quand tu fais une blague nulle, à la limite, t'as l'autre personne qui soupire ou il y a un blanc et ça assied le fait que c'était un moment nul. Et là, il n'y a pas ça. Donc, je dis une blague nulle, je la trouve nulle, ça me met mal à l'aise, ça me fait rire. Ça me met mal à l'aise d'avoir rigolé, donc ça me fait rire encore plus. Et donc, voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Et j'avais fait quelques stories, je crois, sur Instagram avec quelque chose comme beaucoup de poésie, là, ça devait ressembler à fucking piano. Voilà. Et cette personne-là avait réagi, et maintenant, ça doit faire un an ou deux qu'à chaque fois qu'un ou deux dans un endroit public, comme moi, je sais que c'est ce que je fais, puis elle, je reçois souvent des photos, avec une photo de piano, on s'envoie la photo, donc on a créé du lien ensemble, basé uniquement sur cette chose un peu unique. Et donc, voilà, quand je partage quelque chose en disant qui a fait ou envisage de faire un enfant toute seule, vous taguez plein de gens sur les posts. C'est super gentil parce que ça me permet, moi, de recevoir plein d'anecdotes et de témoignages. Et j'ai commencé à recevoir donc plusieurs. Certains m'ont demandé adopter ou en procréation médicale assistée ou avec... Peu importe. Le point, c'est pour moi la décision de dire « Je vais faire un enfant. Je vais m'occuper d'un enfant seul. » Cet enfant-là aura... une mère. Je ne sais pas si ça existe pour un père, ça doit être très rare. Si c'est le cas, contactez-moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et donc voilà, je pose plein de questions à ces gens-là. Et donc demain, normalement, je devrais faire une petite compilation de tout ça. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que pour moi, c'est hyper important. Je trouve que c'est la façon la plus douce d'apprendre à l'empathie et à être ouvert d'esprit. Si quelqu'un avec une pancarte en disant « La PMA pour tous » ou « Non, je suis contre », c'est un peu... En fait, je trouve ça pas hyper efficace comme débat. Alors que c'est juste quelqu'un qui te raconte sa réalité avec ses vraies émotions d'être humain et du concret et du tangible, il me semble qu'on peut connecter un peu plus. Et c'est une super transition que je n'avais absolument pas prévue parce que la deuxième partie de ma journée, j'avais dit hier que j'allais parler avec une médecin qui m'avait contacté suite au podcast sur la grossophobie et les violences médicales. J'ai demandé si je pouvais dire son nom. Elle s'appelle Valentine. Elle travaille à Bruxelles et elle fait de la médecine générale depuis 3 ans et elle est dans sa deuxième année où elle fait aussi les visites scolaires. Et je dois dire que j'ai adoré mon coup de fil avec elle parce que quand j'ai reçu un message d'une médecin qui voulait réagir par rapport au sujet, entre autres de violence médicale, je m'attendais à ce que ce soit le début d'un genre de débat. Genre, oui, les patients ont dit telle chose ou quelques patients ont dit telle chose, mais il faut savoir que de notre côté, les médecins, c'est plus ça, et qu'il y a une espèce de d'antagonisation, et que chacun se cristallise un peu dans son coin, tu vois, que la position, chacun se raffermisse dans sa position, et c'était absolument pas le cas. Et même, je me suis rendu compte que j'avais limite un espèce de préjugé, pas par rapport à la personne ou à sa profession, mais par rapport à ce que c'est d'intervenir dans un débat public. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant. Et j'espère tellement que ce soit ici, dans ce podcast-ci ou ailleurs, mais qu'on soit dans cette nouvelle tendance-là de quitter la logique des débats politiques, des plateaux télé, jusqu'à plus ou moins aujourd'hui, des émissions en France, il y avait Ardisson avec Laurent Baffie ou Laurent Ruquier, avec ces deux chroniqueurs qui pour créer de l'intérêt, doivent brasser de la merde, en gros. Et oui, ça fait un excellent 20 secondes qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu apportes au monde avec ça? Rien du tout. Et je dis pas de faire dans l'angélisme ou de prendre toutes les causes à bras le corps, mais juste. S'il y a une situation qui mérite un débat, c'est qu'il y a un problème. Et quand il y a un débat parce qu'il y a un problème, l'objectif ne devrait jamais être d'avoir raison. Devrait toujours être de trouver une solution. Et c'est ce que j'ai eu dernièrement avec les gens que j'ai eu au téléphone. Et avant de me lancer dans le résumé de la conversation que j'ai eue avec elle, pendant que je discutais avec Valentine, donc, je me suis demandé, est-ce que ça vous intéresserait si. Donc, je continue dans cette logique-là. On lance des sujets, j'essaie de prendre mes informations, j'appelle des gens, j'ai des témoignages. Mais quand j'ai des gens au bout du fil, est-ce que ça vous intéresserait que dans des genres d'épisodes bonus ou des fichiers à part, j'y mette la conversation que j'ai eue, ce qui, moi, je considère étant la partie recherche de mon travail. Je fais des recherches pendant une partie de la journée, puis je donne le résultat de mes recherches dans le podcast. Mais ça pourrait peut-être être un chouette bonus d'entendre les gens, les conversations directement. Faites-moi savoir. Moi, de toute façon, j'ai les conversations. Et ça vous intéresse, ben, je te trouverai une manière de rendre ça disponible pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Donc voilà, je vais juste ressortir mon petit fichier parce que j'ai pris des notes, évidemment, pour être sûr de ne pas dire de conneries. Donc, première chose, Valentine me dit, j'ai écouté le podcast, il y a plein d'endroits où je voulais réagir. Je me disais, il me semble que ça serait intéressant d'avoir l'avis d'un médecin là-dessus. Je fais, oui, s'il te plaît, please. Et elle m'a raconté quelque chose en disant, c'est intéressant de partir de la formation des médecins et de la logique du système de santé. Donc, ça, c'est pour la Belgique. Au Canada, pas pareil. En France, pas la moindre idée. En Suisse, non plus. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent de la Suisse. Je suis super content. J'adore la Suisse. Je suis allé là seulement pour des belles choses. Donc, j'ai. Tu sais, comme un oncle que tu vois juste à ton anniversaire et que tu te rends compte que tu as associé le plaisir de ton anniversaire au plaisir de voir l'oncle. Tu sais, tu as connecté ça Pavlov style. Et la Suisse, c'est un peu ça. La Suisse m'a pavlové du plaisir. Drôle d'expression. Donc, les visites médicales. Scolaire. Le point, c'est que 6 fois dans ton parcours scolaire, des médecins vont venir te voir et c'est une manière qui n'est pas de laisser pour compte, en gros. Que 100% des enfants puissent voir un médecin d'une manière régulière et aussi elle me disait que parfois, quand les parents ne voient pas de problème avec les enfants, ils ne vont pas avoir le réflexe d'organiser une rencontre avec le médecin traitant. Et donc, souvent, genre, à dire, 10, 12 ans jusqu'à la fin de l'adolescence, il n'y a pas nécessairement beaucoup de problèmes, alors qu'on est dans une zone où on peut peut-être identifier, dépister des choses un peu plus tôt. Et donc, c'est comme ça qu'au niveau de la santé publique, la Belgique a choisi de faire les choses. Maintenant, elle me dit que tout part de la formation. Elle dit la logique de la formation en médecine, c'est que tu as 3 ans de baccalauréat et 3 ans de master. En gros, pendant les 3 ans de baccalauréat, on t'apprend comment fonctionne le corps quand il fonctionne bien. Et pendant les 3 ans de master, c'est divisé en fait par organes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on apprend l'estomac et tu as un chef de département de gastro-entérologie qui vient donner des cours. Puis après ça, un néphrologue pour les reins. Après ça, etc., etc. Donc, elle dit, selon elle, elle dit, je pense qu'il y a déjà un léger souci parce que c'est de l'enseignement par des spécialistes d'une manière très, on dit par silo. En gros, c'est dans une boîte, il y a tel morceau, tel morceau, tel morceau. Mais elle dit, la majorité des gens qui vont après ça aller exercer la médecine vont le faire en médecine générale. Et on n'a pas vraiment de vision de médecine générale puisque ce sont des spécialistes qui vont donner des cours très spécifiques et très spécialisés dans certaines choses. Mais après, il faut tout remettre ça ensemble. En gros, vous avez une formation IKEA. On vous shoot tous les éléments dans une boîte, puis après ça, c'est à vous d'aller construire le meuble de la médecine. C'est plus ou moins ça. 2-3 problèmes avec ça quand on revient au problème de l'obésité. Elle dit donc qu'on n'a pas, au final, de formation sur la problématique de l'obésité. C'est-à-dire que celui qui nous parle de l'estomac va nous expliquer les problèmes que le surpoids peut avoir sur l'estomac, puis sur tous les organes, mais on n'a pas de vision d'ensemble. Et c'est la première chose qui m'a marqué pendant ce coup de fil. C'est de dire qu'au final, les problèmes d'obésité dans les 50 dernières années ont augmenté et on ne forme pas les médecins à comprendre la réalité. Ils ne sont pas prêts, en gros, le pourcentage de leurs études qui est consacré à ces problèmes-là versus le pourcentage de leur temps qui va être consacré à y faire face dans la pratique, ça ne marche pas, ça ne matche pas. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois que si on demande aux institutions d'adapter le cursus scolaire aux gens qui créent le programme, de le moderniser, de dépoussiérer, de l'adapter à la réalité d'aujourd'hui, ils seraient ouverts à le faire? Et ce qu'elle m'a répondu, c'est super intéressant. Elle dit, en fait, je crois que ça va dépendre. Souvent, dans chaque faculté, c'est une personne qui est responsable de la formation. Et en fonction de son ouverture d'esprit à elle, ça peut changer ou pas. Et quand je disais que je voyais une ouverture d'esprit et une absence de débat, c'est que d'un côté, j'ai reçu des tonnes de témoignages de gens en surpoids qui me disent « j'ai pas l'impression que le médecin, sa réaction était adaptée à mon problème ». Et de l'autre côté, j'ai un médecin qui m'appelle et qui me dit « je ne trouve pas que notre formation nous permette d'être bien connectés là-dessus ». Première bonne nouvelle. Je trouve ça beau de voir deux personnes de chaque côté de la table du médecin qui voient un problème et au final, je suis convaincu qu'il n'y a aucune personne qui est en situation de surpoids ou qui a vécu des violences médicales qui va dire genre « Oh non, c'est une mauvaise idée que de revoir un peu la formation pour intégrer ça. » Deux autres problèmes. Il y a pas de cours de psychologie dans la formation en médecine en Belgique. C'est quand même dommage. Je veux dire, si tu étudies pour devenir prof, tu apprends le contenu de la matière que tu vas enseigner et puis il y a des cours de pédagogie. Maintenant, je comprends qu'on va d'abord t'apprendre à soigner quelque chose avant de t'apprendre la relation avec le patient. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à sacrifier ce côté-là psychologique de la relation avec le patient? Moi, je ne le suis pas. C'est juste que, évidemment, si tu dis qu'il faut rajouter des cours de psychologie, est-ce que tu rajoutes un an au cursus scolaire? Est-ce que tu rajoutes des coûts sur le système? Est-ce que? Deuxième élément, moi, pour revenir à une anecdote personnelle, je buvais beaucoup de Coca-Cola. Je buvais l'équivalent peut-être d'un litre par jour pendant des années de ma vie. Je faisais des gastrites à répétition, donc une inflammation de l'estomac. Pas très surprenant quand tu sais comment le sucre, une fois arrivé dans l'estomac, pour être digéré, il y a de l'acidité qui est produite. Ça fait inflammer la paroi. Et puis, c'est d'une douleur. Je ne conseillerais pas, même aux gens que je déteste, même si je ne déteste personne, puisqu'évidemment, je suis une arme généreuse. Et il y a un médecin qui était venu à domicile, c'est au moment où j'habitais en Belgique. Et il me l'avait expliqué avec tellement de pédagogie, et ça m'avait parlé à moi. Le même discours, peut-être la veille, le lendemain, m'aurait pas parlé, à une autre personne m'aurait pas parlé, mais dans cet état d'esprit, dans ce moment-là, ça a eu un impact direct. Il m'explique, il dit, ben, en gros, ta paroi est inflammée. Puis, ben, des estomacs, tu en as juste un. Donc, si c'est inflammé comme ça à ton âge, imagine ce que ça va être plus tard. Le sucre liquide, le sucre raffiné liquide, c'est à peu près une des pires choses que tu peux mettre dans ton organisme. Le sucre, ça va nourrir certains types de cellules dans ton corps. Je me souviens plus des types de cellules, mais je sais que c'était plus ou moins genre Satan, le diable et l'enfer, là. Et la manière dont il m'a parlé, ça a percuté très fort et il a ajouté, il dit, la raison pour laquelle on ne te le dit pas nécessairement, c'est que dans tout le cursus scolaire de médecine, il n'y a pas 7 heures de nutrition. Autrement dit, si tu lis un livre sur la nutrition, tu vas en connaître plus qu'un médecin. Et Valentine, à qui je parlais aujourd'hui, me dit que la plupart des connaissances qu'elle a en nutrition et ce qu'elle essaie d'appliquer à sa pratique, ce sont des choses qui... elle a apprise d'une personne de son entourage qui a déjà eu des problèmes de surpoids, qui donc s'est intéressée énormément à la nutrition. Et on revient à ce que Myriam, la dernière fois, m'avait dit, en disant, si tu croises quelqu'un qui est en situation de surpoids, va certainement beaucoup mieux connaître les détails de l'alimentation et les effets des aliments que quelqu'un qui n'est pas en position de surpoids. Donc, une fois de plus, je vois du lien, je vois un endroit où les deux côtés de la table du médecin, encore une fois, se rejoignent. Donc, pas vraiment de connaissances en nutrition, pas de psychologie. Ce qu'on m'a dit, c'est que la psychologie, la relation avec le patient, tu l'apprenais plus ou moins quand tu étais, ça doit pas être le terme exact, mais en stage. Et en fonction du médecin avec qui tu es en stage, ben, tu apprends sa psychologie à lui. S'il y en a, c'est merveilleux. S'il y en a pas, Et l'autre élément aussi, deux autres éléments assez intéressants. Il y a une charge que l'on met sur les médecins. Si on te demande de voir 2000 personnes en 5 minutes, c'est sûr que ce ne sera pas génial, probablement, ta façon de traiter avec les gens. Et donc, c'est aussi un choix. Combien on veut de payer de médecins dans le système scolaire? Quelle est la chose qu'on leur demande? Et je dis médecin, je veux dire, personnel soignant en général, je n'ai pas de connaissances dans le domaine. Je sais qu'il y a des médecins qui disent que ce sont surtout des infirmiers et des infirmières qu'il faudrait en plus. Garde. Je vais certainement pas m'avancer dans un domaine où je connais absolument rien. Mais on revient encore une fois à la base des choses. La conséquence, c'est une série de personnes qui trouvent qu'ils ont été maltraitées dans le système de santé. La solution, elle est 2-3 niveaux au-dessus et je suis convaincu qu'on peut faire quelque chose. Si on décide, même chose que je disais avec dans le podcast il y a quelques jours, qu'est-ce qui fait que tout à coup, on prend une cause et on l'amène plus loin? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on essaie de soigner la cause et pas les symptômes, justement? Et j'ai abordé avec elle un tout petit peu la réflexion que j'avais lue sur la quantité d'argent qui est mis, je veux dire entre les deux, qui est mis pour la recherche et les médicaments contre les problèmes de dysfonction érectile. En gros, si tu bandes pas, il y a des solutions. En Belgique, je crois qu'en France aussi, c'est pas possible de faire de la pub pour des médicaments. En Amérique du Nord, très possible. Et il y en a du Viagra, du Cialis. Il y a énormément de pubs. Et en fait, on est dans un autre axe de possibilité de trouver une solution à ce problème de autour, donc de surpoids, c'est que tu sais si t'es une compagnie pharmaceutique, que si tu trouves une pilule pour faire bander des gens qui ne bandent plus, tu vas faire un max de pognon. Et la recherche, elle est financée très souvent par les compagnies pharmaceutiques. Donc, pour l'instant, ça veut simplement dire que ça ne semble pas payant de faire ces recherches et ces études-là pour les gens en surpoids. Et c'est exactement ce que donc Valentine, le médecin, me disait aujourd'hui. Si tu cherches dans la littérature scientifique, tu vas trouver, par rapport au poids, tu vas trouver tout et son contraire. Je vous ai parlé d'une série d'articles, une série d'études que j'ai lues qui disaient qu'en gros, si tu es gros et en bonne santé, genre, selon les indicateurs, là, tu as moins de chances de développer des maladies que si tu es mince et que tu fais pas de sport, tu fais pas attention à toi, que le fait qu'on se moque de toi quand tu es gros cause peut-être plus de problèmes que ton poids en plus, etc., etc. Et donc, Valentine me dit, ça tire dans tous les sens. Il y a des biais dans toutes les études. Le problème, c'est qu'en général, on utilise donc les métadonnées. C'est des gens qui vont prendre, compiler 1000 études puis ressortir des données là-dessus en essayant d'aplanir un peu les biais de chacune des études. Et elle dit, si moi, je veux avoir ces études-là, il faut que je fasse ces recherches-là moi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. Autrement dit, dans la formation de médecine, c'est une des conclusions que moi, je tire. Il n'y a pas la préparation nécessaire pour comprendre la problématique des gens en surpoids. Ni la formation en psychologie pour le traiter comme il faut. Et d'un côté, c'est décevant, c'est triste. De l'autre côté, tu te dis, ben, la solution, elle n'est pas super compliquée, en fait. Tu dois repartir à la base, ça va mettre du temps, etc., etc., mais au moins, elle existe. En tout cas, la piste de solution. Et je lui ai dit à la fin de la conversation, moi, évidemment, je vais prendre ce qu'on a discuté ensemble, on était trois quarts d'heure au téléphone ensemble, et je vais l'incorporer dans mon cerveau, puis le régurgiter comme moi je le sens, comme moi je le pense. Je lui ai dit la même chose que j'ai dit à Myriam il y a quelques jours. Si tu écoutes et que tu trouves que j'ai déformé tes propos ou quoi que ce soit, dis-le-moi. Moi, j'ai pas d'agenda, j'ai pas d'objectif. J'essaie juste de, encore une fois, d'amener de la connaissance vers un public, vous, qui clairement, vous êtes ouvert d'esprit, vous avez envie de ce truc-là, d'avoir les histoires et les connaissances d'un peu tout le monde. C'est agréable, je trouve, comme environnement. Donc, si j'ai dit des conneries, je pourrais me corriger d'ici un ou deux épisodes. Et j'ai terminé en disant, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, que je ne t'ai pas posé comme question et que tu aimerais souligner? Donc voilà, je relis pour être sûr que... Oui, il y avait un autre détail. Elle a dit, d'après moi, il y a plus de problèmes de violence médicale avec les spécialistes qu'avec les généralistes. Les spécialistes, souvent, ils vont plus souvent déshumaniser parce qu'ils voient les gens une fois puis ils ne revoient plus jamais. Et ils ont une certaine pression et ils s'en foutent un peu. Le généraliste, elle dit, nous, on développe le relationnel avec les patients. On arrive à voir la personne derrière le patient. Il y en a que tu revois plusieurs fois par année. Tu développes quelque chose. Ça semble être tout à fait logique. VIP pour elle. C'est ça que j'ai mis dans mes notes. Elle dit, je voulais réagir quand même au fait que parfois, les médecins vont te parler de ton poids alors que tu viens pour totalement autre chose. Elle dit, moi, je te parle d'un point de vue de médecin généraliste où je vais commencer en disant que évidemment il y a le fond et la forme, que évidemment il y a des choses qui ne se disent pas, et c'est pas parce que tu adresses un problème de santé que tu as le droit de le faire n'importe comment, de dire n'importe comment, elle dit, évidemment, avec les gens qui ont raconté l'anecdote. Mais elle dit, moi, mon métier, c'est aussi de faire de la prévention. D'ailleurs, on discutait sur le fait qu'il y a moins l'accent mis sur la prévention, forcément, et plus sur le curatif ici. Elle dit, donc, si quelqu'un vient me voir pour un problème, entre guillemets, plus mineur, genre une angine, oui, je vais soigner l'angine, mais j'ai souvent en profité pour reprendre le dossier et poser toutes les questions en lien avec la santé du patient. Et ça part de la quantité d'activité physique, la quantité d'alcool, est-ce que tu fumes, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu es prudent dans ta vie sexuelle, est-ce que tes vaccins sont à jour, et le poids va en faire partie. Dis-moi, j'ai l'habitude, il y a une manière de le faire aussi, mais selon elle, elle dit, c'est mon rôle de dire aux gens, de les aider, de les accompagner dans le fait de les amener à l'endroit où ils vont être le plus en santé. De toute façon, elle dit, dire aux gens perdre du poids, ça ne marche pas. Elle dit, je veux montrer que je suis dans la même équipe. Je veux dire aux gens, idéalement, ça serait mieux s'il y avait un autre poids, je suis là pour vous aider, on peut fixer un rendez-vous pour ça, je peux vous conseiller des gens, on peut faire une prise de sang, vérifier s'il n'y a pas d'autres problèmes. Et c'est forcément différent des gens qui disent, on ne m'écoute pas, on me dit, t'es gros, tu fais exprès, dégage, puis on a découvert 15 ans après une maladie orpheline. Elle dit, donc, on n'a pas souvent le temps quand on est médecin, et les petits bobos, entre guillemets, une angine, un mal de dos, c'est l'occasion de refaire le tour du question. le tour de la question parce que médicalement, elle dit, je trouve que ça a un sens. Pareil pour les enfants en visite médicale. Moi, je ne vais jamais dire aux enfants à l'adolescence, avant l'adolescence, t'es trop gros, t'es ci, t'es ça. Parce que l'enfant, c'est pas de sa faute. Soit il y a un problème de santé, il peut rien, soit c'est ses parents qui le nourrissent, il peut rien. Mais je sais que plus tôt on essaie de faire quelque chose avec ça, plus tôt cet enfant peut avoir des bonnes habitudes, ou au mieux, ça va être pour sa santé. Je vais le noter dans la petite fiche qu'on envoie aux parents, mais je ne traite pas. Le médecin scolaire n'est pas là pour traiter, je renvoie vers le médecin traitant. Mais elle considère, elle dit, pour moi, c'est mon rôle. Il n'y a personne de mieux placé au moment de la visite scolaire pour essayer de prendre en charge la santé de l'enfant. Donc voilà, c'était la conversation que j'ai eue avec elle. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je risque de lui reparler pour d'autres sujets. Hein, je lui ai dit, entre autres, je voulais parler de la pilule contraceptive éventuellement. Et je me rends compte que c'est beaucoup de sujets qu'on associerait à la base aux féministes. Au féminisme parlant. Et plus je fouille, parce que j'essaie encore une fois de parler des choses qui ont un certain sens et qui ont une certaine utilité. Et là, je sais que toutes les femmes qui écoutent, vous allez vous foutre un peu de ma gueule. Avec raison, mais... En fait, j'oserais dire que je crois qu'il y a... Les filles, vous avez... plus de problèmes. Et pas dans le sens de « t'as des problèmes », mais genre, il y a vraiment plus de choses contre lesquelles vous devez vous battre que les hommes. Donc voilà, je sais, c'est une position assez moderne qu'on n'a jamais entendue. Mais je fais « putain, ouais, c'est vrai que ça, c'est pire. Genre faire un enfant toute seule. » Ah oui, les filles vont être plus jugées. Si tu dis que tu veux pas d'enfant quand t'es une femme, versus quand t'es un homme, tu vas être plus jugé. Faire un enfant plus vieux, tu vas être plus jugé. Là, il peut avoir des raisons médicales, mais bon, presque ça même. Une fille avec un mec plus jeune versus l'inverse, la fille va être plus jugée. Le harcèlement, c'est plus les filles. La grossophobie, c'est plus les filles aussi. Donc voilà. Il y a des problèmes quand on est un homme aussi, mais j'ai l'impression que quand tu fais la somme, pour l'instant, et d'un autre côté, ça m'emmerde totalement les gars qui disent ça pour faire un peu genre « Hey, ladies, comment je comprends votre douleur? » Fuck you! Mais dans ce pourquoi je m'intéresse, dans les choses dans lesquelles je m'intéresse, les choses auxquelles je m'intéresse, voilà, pas la langue française pour l'instant apparemment, c'est hyper frappant à quel point ça a l'air d'être genre 85 voire 99-99%. Ça touche plus les femmes que les hommes. Donc si ça se trouve, hein, le féminisme, ça a du sens. Non, mais je vais continuer de fouiller. On ne sait jamais que je fasse une découverte. Donc voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Merci encore une fois de participer à ce projet-là. J'ai vraiment l'impression de ne pas le faire tout seul. Donc quand moi, je suis dans mon petit bureau devant mon micro, vide, les yeux fermés la moitié du temps, j'ai l'impression de faire un show avec vous. J'espère que c'est la même chose quand vous l'écoutez. N'hésitez toujours pas à réagir, ça me fait fort plaisir. Et encore une fois, le podcast disponible sur Spotify, Podcast Addict, et sur le Patreon, patreon.com/Dan Gagnon Podcast. OK, à demain, bye bye.